Face à l'info sur la première.
Et tout de suite, on va retrouver Dick Ekelberg qui va vous proposer aujourd'hui une rencontre avec Guibert Delmarmol qui vient de publier Sans plus attendre, paru aux éditions Caire.
Ce soir, nous allons essayer de prendre quelques chemins optimistes parce que il y a lieu, comme on le fait d'ailleurs dans un certain nombre d'autres émissions sur cette antenne, de pouvoir faire aussi de temps en temps une halte, faire le recensement de ce qui ne va pas et aussi de ce qui peut porter espoir, de ce qui peut donner des impulsions, et il en existe de ci de là sur lesquels déjà s'appuyer. C'est en tout cas le prescrit qu'a choisi notre invité Guibert Delmarmol dans son livre Sans plus attendre. Sans plus attendre, parce qu'on peut y aller, étant donné que, nous allons l'entendre, un certain nombre de constats peuvent être tirés et d'expériences peuvent déjà un peu nous aider à enchanter, à réensemencer en quelque sorte de nouveaux chemins. Économiste de formation, Guibert Delmarmol a dirigé, je dirais de manière plus classique sans doute, un certain nombre d'entreprises, a une expérience internationale, a une expérience dans divers domaines. Il est maintenant spécialiste de ce que l'on appelle et de ce qu'il appelle l'économie régénératrice. Alors déjà cela, c'est tout un programme qui peut être ici décliné dans cette émission et nous n'allons pas nous en priver. Guibert Delmarmol, bonsoir. Alors, sans plus attendre, pour oser vous paraphraser, lançons-nous. C'est vrai que lorsque vous entamez, j'imagine, votre parcours d'études, puis de responsable dans le secteur de l'économie, vous n'imaginez pas, un, découvrir peut-être l'ampleur de la crise où nous nous trouvons, deux, vous n'avez pas les prémices de cette économie régénératrice.
Bonsoir. Non, pas du tout. Moi, j'ai été coulé dans le dogme de ce qu'on appelle les business schools à l'époque. J'ai commencé à travailler à la fin des années 80. Et le dogme que l'on m'a enseigné à l'époque, c'était, en anglais, on dit « the business of business is business ». En clair, la raison d'être d'une entreprise, c'est la maximisation du profit. Le reste, c'est pas son affaire. Et aujourd'hui, après un certain parcours, un long cheminement, ma croyance est de dire que ce dogme-là, il est erroné. C'est une fausse croyance. La vraie raison d'être d'une entreprise, je pense, c'est la création de valeurs partagées entre toutes les parties prenantes.
Et pas exclusivement de valeurs ajoutées.
Pardon ?
Et pas exclusivement de valeurs ajoutées.
Et pas exclusivement de valeurs ajoutées, c'est de valeurs partagées. Je pense que l'entreprise est un écosystème et que si vous voulez garantir son développement et sa pérennité, vous devez avoir à l'esprit un équilibre entre toutes les parties prenantes, que ce soit l'actionnaire, l'environnement, le patrimoine humain de l'entreprise ou la société civile dans laquelle elle évolue. Il y a une dizaine d'années, quand j'ai quitté le monde de l'entreprise traditionnelle, quand j'ai remis mes clés en tant que dirigeant pour devenir conseiller sur ces sujets-là, c'était assez novateur. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. C'est devenu totalement accepté, même dans les meilleures business schools. Et fondamentalement, je pense que c'est du bon sens.
Oui, alors on conviendra assez rapidement sans doute que face à la crise, face au mal-être généralisé, face au doute qui s'est installé aussi entre le monde de l'entreprise et le monde des citoyens ou des consommateurs, il y a sans doute lieu de trouver que c'est du bon sens. Mais vous nous dites un peu rapidement que c'est accepté aujourd'hui. Or, pourtant, on voit bien, y compris dans l'actualité au quotidien, que l'actionnariat, la financiarisation, la prise de bénéfices sur finance et non pas sur entreprise et sur sa continuité est encore le quotidien. En faisant Deleuze il y a quelque temps, en faisant Cora peut-être demain, je n'ai pas le sentiment de faire autre chose que l'inverse de ce que vous venez de me décrire.
Non, mais l'ancien monde est encore là. Ce que je pointe dans le livre, ce que j'essaye de faire depuis 10 ans, c'est de montrer le nouveau qui est en train de naître, le possible qui est en train de naître. Et c'est sûr que la majorité, c'est aussi un problème générationnel. Il y a encore beaucoup de dirigeants qui sont issus de mon époque, voire d'avant, et qui sont, le propos n'est pas critique, et qui sont coulés dans ce moule-là. Ma vie m'amène à voyager énormément dans des endroits extrêmement progressistes. Je suis assez souvent en Californie et autres. Et on voit, au point de vue générationnel, une différence importante.
Ah, ça, c'est intéressant ce que vous venez déjà de dire, Guibert Delmarmol, parce que peut-être que celles et ceux qui nous écoutent et qui pensent, comme vous, qu'il faut faire progresser, qu'il faut une nouvelle matrice en quelque sorte, ne pensent pas forcément que la Californie soit le lieu le plus progressiste du monde.
Mais vous savez, les États-Unis, à ceci de particulier, c'est que vous avez le meilleur et le pire. Vous avez peut-être, c'est là où le dogme capitaliste, entre guillemets, sanguinaire est le plus développé, mais c'est aussi là où vous avez les gens les plus progressistes, capables de se réinventer, avec cet esprit entrepreneurial qui est tout à fait hors norme. Alors moi, c'est ça qui m'intéresse partout où je vais, c'est ces gens-là, ceux qui sont capables d'entreprendre pour un autre monde et de réconcilier les parties prenantes autour de la table.
Est-ce que dans ce qui sera donc de l'ordre de l'économie régénératrice, il s'agit moins de décélérer, hein, parce que beaucoup disent aujourd'hui qu'il faut décélérer, revoir à la baisse notre souci un peu prédateur sur la planète, notre consommation effrénée, notre souci après tout de la production à outrance, notre obsolescence programmée, etc., etc. Est-ce qu'il s'agit moins de cela que de mieux partager en quelque sorte nos attentes et nos résultats ?
Moi, je ne suis pas du tout pour la décroissance. Ouais. D'abord, je n'utilise pas le terme croissance, mais le terme développement. Et je pense simplement, je veux dire, il faut prendre en considération les externalités que l'on crée. Dans le modèle que je vois en train d'émerger, qui n'est peut-être pas encore la une des journaux, c'est un modèle où on se développe, c'est différent de la croissance, mais où on prend en considération la création ou la destruction de valeur. Et ce n'est pas simplement un modèle qui est basé sur la croissance du produit intérieur brut, ni dans le jargon financier, dans ce qu'on appelle la croissance de l'EBITDA, donc qui est la rentabilité de l'entreprise. C'est en train d'émerger. Mais ce n'est pas ce qui occupe le devant de la scène aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Si on veut progresser, si on veut changer le système, on peut identifier les crises comme le font très bien les médias. Mais à un moment, je pense qu'il faut pouvoir viser un autre point sur l'horizon. Vous savez, c'est comme si vous êtes en voilier, vous traversez une tempête. Si vous ne savez pas vers quelle destination vous acheminez, vous allez tourner sur vous-même et finalement, à un moment, vous allez sombrer. C'est ça que je propose. C'est un autre point sur l'horizon.
Alors, dans ce point sur l'horizon, et nous allons y revenir, hein, il y a un certain nombre de valeurs essentielles. Je serais tenté de vous dire, lorsque vous venez à l'instant d'évoquer l'idée de ne pas détruire, ou en tout cas de prendre en considération ce que l'on pourrait aussi détruire dans son environnement, cela veut dire aussi que tout l'aspect culturel, l'aspect patrimonial, savoir d'où l'on vient, réintégrer éventuellement toute une série de choses du passé qui peuvent servir de socle à de nouvelles approches du futur, ça vous semble fondamental. Il faut que l'entreprise, que le monde du business ait le sens de l'histoire.
Oui, et le sens de l'histoire, et je dirais, s'appuie sur ce qu'elle faisait de meilleur dans l'ancien paradigme. Les entreprises, entre guillemets, le terme est peut-être un peu brutal, c'était des bêtes de guerre, extrêmement efficaces et efficientes. Eh bien, moi, je veux garder cette efficacité, cette efficience, mais la mettre au service de quelque chose de plus large. Et chose, ce n'est pas un vœu pieux, c'est très pratique et pragmatique, parce que celles qui y sont déjà, sur le moyen et le long terme, sont plus rentables et sont beaucoup plus pérennes.
Alors, je vous avoue que quand d'emblée, hein, et par exemple déjà, alors c'est un mauvais réflexe, mais on commence toujours un peu par la quatrième de couverture. Lorsque l'on lit un petit peu rapidement votre quatrième de couverture, on se dit, il y a une approche, alors pour le coup peut-être très californienne, comme ça, une prise en considération des meilleurs enseignements du passé, aller rechercher dans un passé parfois un peu mythique un certain nombre de choses. Bref, on se dit, c'est très théorique. Et puis au contraire, dès les premières pages, vous nous emmenez vers des exemples très très concrets, notamment en termes d'agriculture, de permaculture, et autres qui sont des termes qui commencent maintenant à être un peu mieux connus, où vous nous réindiquez comment on peut associer des techniques ancestrales plus classiques que l'on peut faire ressurgir, associées aux nouvelles découvertes scientifiques qui permettent de mieux comprendre aussi la réalité des sols, la réalité, somme toute, de ce que nous faisons.
Je crois que la clé de la réussite, c'est de connecter les silos, comme on dit. Si vous prenez quelqu'un, un personnage comme Steve Jobs, je veux dire, son développement et sa réussite est lié à ça, sa capacité à connecter des silos est fondamentalement différent. Il avait cette même passion pour les technologies, pour la science, pour l'architecture et même pour la spiritualité. Et donc, en connectant ces différents silos, vous développez un autre regard. Et c'est souvent en développant un autre regard que vous trouvez les solutions aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Donc oui, unir le passé et le futur, pour moi, est extrêmement important. À l'image de l'arbre, vous ne pouvez pas grandir et développer des branches qui sont résistantes si vous n'avez pas des racines profondes. Et les racines, vous les puisez dans le passé. Donc, je le redis, ce n'est pas faire fi de ce qui était. Aujourd'hui, il faut constater simplement que le modèle économique, il est peut-être au bout de sa logique parce qu'il engendre trop d'externalités négatives. Donc, repensons le système, mettons en œuvre ce qui fonctionne, les racines fortes, d'efficacité, mais surtout, pensons à un autre devenir et une autre raison d'être au modèle.
Avec une parenthèse encore appuyée sur ce qui pourrait ressembler à de la philosophie associée au management, ce qui n'a pas toujours fait bon ménage.
Non, mais je peux comprendre, mais moi je me définis moi-même comme un utopiste très pragmatique.
C'est une restauration, hein. Le mot utopie maintenant reprend du sens, là où avant, il y a 10 ans, il était péjoratif.
Oui, et je dois dire que j'aime beaucoup la phrase de Kennedy qui disait face aux crises, finalement, vous ne pouvez pas demander aux cyniques ou aux sceptiques qui se bornent à une réalité évidente de penser et d'imaginer un monde différent. Et on a besoin de penser et d'imaginer un monde différent.
Ce qui est le propre de l'utopie.
aussi.
Alors, si l'on veut bien revenir effectivement à la manière très concrète d'envisager les choses, ça veut dire quoi ? Qu'il faut se réapproprier aussi collectivement le sens de l'entreprise, parce que bon, ici, il semble que de l'entreprise de tradition familiale, en passant par l'entreprise très développée et transnationale, on est passé à l'entreprise financiarisée où, somme toute, l'actionnaire est à peu près un fonds d'investissement ou monsieur et madame Nobody, qui n'a donc que peu de sens de la production et n'a pas un rapport à la production. Est-ce qu'il faut se réapproprier collectivement le sens d'une entreprise et la partager ? Vous parlez d'ailleurs, vous faites aussi l'apologie, par exemple, aussi des circuits courts.
Oui. Alors, simplement remettre ça dans le contexte. Moi, je pense qu'on vit un momentum très particulier. Le monde est à la croisée des chemins. Capacité de se détruire très, très vite, comme en attestent les rapports de Stanford, du MIT ou récemment de la NASA. Mais on est aussi potentiellement au seuil d'une nouvelle période de renaissance, parce qu'on a véritablement la capacité de construire un nouveau modèle. Et j'ai une passion pour le monde de l'entreprise, parce que c'est un lieu de création et d'innovation, et c'est une merveilleuse aventure humaine, pour autant quand elles sont dirigées de façon éclairée. Et donc, oui, pour moi, une entreprise, c'est avant toute chose une aventure humaine. C'est un écosystème dans au sein duquel s'assemblent des compétences. Et ce qui manque le plus aux entreprises pour pouvoir vivre ce que j'exprime au micro pour l'instant, c'est d'avoir une vision forte de la raison pour laquelle elles existent. Trop souvent, quand je démarre une mission en entreprise, je demande simplement quelle est la vision ou la mission d'entreprise. On me dit « nous voulons être les meilleurs ou les plus rentables dans notre secteur d'activité ». Ça, ce n'est pas une vision fédérante. Une vision fédérante, c'est de se poser la question « pourquoi est-ce que l'entreprise existe ? Qu'est-ce qu'il manquerait à la société civile si l'entreprise n'était pas là ?» C'est un optimum vers lequel vous cheminez, que vous n'atteignez jamais complètement. Et aux surprises, les études démontrent que les entreprises qui ont fait ce travail de définir leur personnalité, pourquoi elles existent, ce qu'est leur ADN, sur le moyen et le long terme, elles sont beaucoup plus rentables que les autres.
Donc il faut convoquer les entreprises sur le divan.
Sur le vivant ?
Et le divan. En quelque sorte comme Freud.
Je ne suis pas psychanalyste. Simplement, je pense que c'est un organisme vivant qui possède une âme et qu'il faut en tenir compte et qu'il faut la célébrer.
Ce qu'il y a d'évidemment difficile à cerner, c'est le fossé qui peut séparer maintenant, dans l'absence de confiance, qui s'est aussi créé progressivement à l'aune de la crise, le profil de l'entrepreneur et de l'entreprise que vous nous décrivez, qui serait enthousiasmant d'accompagner comme acteur dans l'entreprise ou comme consommateur, il faut que l'on arrive à l'identifier, il faut qu'on arrive à le cerner, il faut qu'on arrive à le voir, à le percevoir dans sa différence par rapport aux autres. Or ça, en tout cas en Europe, on ne le voit pas encore naître tout le temps, sauf à considérer que ce soit, et avec tout le respect qu'on leur doit, les entrepreneurs bio, les entrepreneurs de proximité que l'on peut découvrir dans nos régions ou sur certains de nos marchés, mais ce n'est pas suffisant pour faire croire qu'il y a une mutation.
Alors, il y a une chose, c'est qu'une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Hein. C'est une première. Alors, moi, je travaille beaucoup aussi au niveau de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, que j'ai d'ailleurs rebaptisé l'entrepreneuriat sociétal. Qu'est-ce que c'est ? Mais la définition anglo-saxonne d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve une solution à un problème et en vit. Un entrepreneur sociétal, donc, c'est quelqu'un qui trouve un problème qui trouve une solution à un problème de société, que ce soit l'éducation, l'emploi, l'habitation, la nutrition et en vie. Mais donc, la première raison d'être n'est pas de maximiser le profit. Il a besoin du profit pour payer les salaires et la recherche et développement. Mais la première raison d'être, c'est vraiment de créer un plus pour la société. Alors, c'est un phénomène qui est en train de prendre une ampleur absolument incroyable partout. Et on sort d'une logique ou bien on fait du profit ou bien on fait de la philanthropie. Et l'indicateur qui montre, ça prend une ampleur incroyable, c'est aussi les fonds d'investissement qui se tournent vers ce domaine-là. Pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte que la séparation entre profit et philanthropie ou entre public et privé, ça ne fonctionne plus. Face aux crises, on est tous ensemble. Et la crise est tellement énorme sur le plan climatique, économique, voire démographique, que la solution, c'est vraiment passer de l'art de la compétition à l'art de la coopération. Et ce n'est pas un vain mot, parce que les entreprises, pour avoir du succès aujourd'hui, doivent vraiment être capables de coopérer avec l'ensemble de la chaîne, en amont et en aval.
C'est à la fois redonner des lettres de noblesse, ou peut-être amplifier des lettres de noblesse à tout ce qu'on appelait le fair trade aussi, hein, somme toute, c'est être un peu fair play dans l'ensemble de la place de cette entreprise dans la société, et en même temps, On serait tenté de réaffirmer un doute aussi en vous entendant, en se disant « Oui, mais j'ai parlé d'obsolescence programmée tout à l'heure pour doper la consommation, il faut toujours pousser à acheter plus plutôt que de réparer, parce qu'il faut que la machine tourne. Aujourd'hui, il y a quand même une forme alors de décélération si l'on veut consommer autrement, si l'on veut se respecter. La société n'a pas besoin d'une tonne de déchets à côté de ce qui pourrait être réutilisé. »
C'est pour ça que j'ai développé le concept d'économie régénératrice. Mon propos est de dire qu'il est trop tard que pour n'être que durable, parce qu'on impacte trop l'environnement, parce qu'on détruit, on consomme trop de matières premières. Et donc une économie régénératrice, elle s'articule autour de 4 axes principaux, qui est une économie relocalisée, on y viendra peut-être tout à l'heure, surtout sur les fondamentaux que sont l'alimentation, l'énergie et en partie la finance également. C'est également une économie qui est collaborative. Pensez au développement de toutes ces plateformes Internet de partage, de connexion de particulier à particulier, de prêt de particulier à particulier, ce qu'on appelle crowdfunding ou crowdsourcing. C'est en train d'émerger avec une croissance phénoménale. Et c'est également une économie, je dis, d'usage plutôt que de propriété. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, beaucoup d'objets que nous détenons, nous n'avons pas besoin d'en avoir la propriété, nous avons besoin d'en avoir l'usage. Je prends un exemple, le frigo. Fondamentalement, nous n'avons pas besoin d'avoir la propriété du frigo, nous avons besoin de l'usage, de la solution de froid qu'il propose. Si demain le consommateur comprend ça, si demain un producteur plus progressiste que les autres l'intègre et qu'il propose sur le marché un frigo et une solution de froid, et qu'au bout de 5 ans, il doit récupérer sa machine, il n'intégrera plus jamais d'obsolescence programmée dedans, extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est qu'il s'arrangera pour que la machine soit recyclable quasiment à l'infini. Alors on peut dire, c'est un rêve, ce n'est pas vrai, l'industrie automobile s'en approche très très fort. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 92% d'une voiture est recyclée ou recyclable. Il faut savoir également que les grands constructeurs commencent à penser en termes de solutions de mobilité plutôt que de vendre un objet.
Alors, ça passe aussi évidemment par une réforme des mentalités, donc l'enseignement, donc l'approche. Hein. Il va falloir rééduquer tous les citoyens, qu'ils soient destinés à être entrepreneurs et ou consommateurs, à être conscients proprement de leurs droits et devoirs dans cette somme de paradigmes nouveaux que vous venez de nous évoquer.
Oui, complètement. Moi, ce que je dis dans le livre, c'est qu'il y a aussi toute une série de ruptures technologiques qui arrivent, ce qu'on appelle qui sont des innovations disruptives, qui vont changer fondamentalement le monde. On estime aujourd'hui que 65% des métiers que les enfants qui sont à l'école aujourd'hui, 65% de ces métiers n'existent pas encore. C'est vous dire s'ils vont devoir inventer le monde. C'est vous dire s'ils vont devoir être bâtisseurs d'un tout nouveau modèle. Et donc, quelque part, l'école de demain doit préparer au monde d'après-demain.
Et plus détenteurs de sagesse et de savoir apprendre que de connaissances définitivement apprises.
On en revient à la phrase de Montaigne qui disait « L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais est un feu qu'on allume. » Et donc, il va falloir, pour ces enfants, pouvoir réunifier cerveau gauche, cerveau droit. Savoir-faire, mais surtout savoir apprendre, apprendre à apprendre en permanence. Comment gère-t-on ce flux d'informations ? Comment le transforme-t-on en un savoir utile ? Et donc c'est là où il y a une mutation de l'enseignement qui est extrêmement importante. Ça peut passer par les neurosciences et les processus qui nous enseignent. Mais je pense que dans nos modèles, il y a trois choses qui sont extrêmement importantes. C'est comment va-t-on intégrer les nouvelles technologies ? La tablette, c'est déjà en cours. C'est comment remettons plus l'accent sur l'apprentissage que sur l'évaluation, ce qui ne veut pas dire qu'on doit abandonner l'évaluation, mais l'apprentissage, des nouvelles méthodes d'apprentissage pour mettre l'enfant en situation de succès, le permettre d'être véritablement créatif. Et la troisième chose, mais qui est déjà en route spécialement dans les pays scandinaves, qui est probablement la plus importante, comment est-ce qu'on remet le métier de l'enseignement au cœur de la société civile ? Comment est-ce qu'on lui redonne ses lettres de noblesse ? Vous savez, on pointe souvent, quand il y a les tests PISA, on pointe les résultats exceptionnels des pays scandinaves, mais c'est la clé du système, c'est la place de l'enseignant dans la société civile. Eux ne considèrent pas que c'est un coût, mais un investissement. Et les gens qui sont enseignants, je veux dire, sont payés comme tels, reçoivent le soutien comme tels et sont vus comme tels, je veux dire, comme des joyaux de la société civile. Je pense que c'est un travail extrêmement important.
Oui, à cet égard, je reviens sur ce que vous nous disiez ou donniez comme approche des différents piliers, et notamment autour de cette économie relocalisée qui me fait dire que nous manquons cruellement de mémoire ou qu'une certaine forme perverse de publicité afin de se substituer à notre mémoire. Parce qu'enfin, on nous a fait croire que le progrès étant réputé linéaire, nous venions d'un passé plus difficile vers un futur toujours plus beau. Très rapidement, dans les premières pages de votre livre, vous nous rappelez l'autosuffisance de production de Paris en termes maraîchers, alors que maintenant, à peine 4 jours, toute grande surface confondue, de possibilité de survivre avant de crier au secours.
Oui, c'est une des raisons pour lesquelles, quand j'essaye de tresser cette nouvelle vision, ce nouveau phare, je commence par l'autonomie alimentaire et énergétique. Un constat simplement. On dit aujourd'hui que l'avenir est aux cités et plus aux nations. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà plus 50% de la population qui vit dans les villes et qu'il y a déjà plus, je pense, plus de 20 mégapoles, de 20 millions d'habitants. Et c'est un mouvement qui est en marge. Et donc, il faut savoir que ces grandes cités ont une chaîne logistique qui est extrêmement fragile. Une ville comme Paris, effectivement, d'après les dernières études, au bout de 4 jours, si vous coupez la chaîne logistique, il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus d'aliments dans les magasins. Donc, il y a un vrai enjeu. Les dirigeants des villes le savent, parce que j'ai vu ça de Hong Kong à New York en passant par San Francisco, Vancouver ou Paris. Il y a une réflexion très très forte sur l'agriculture urbaine. Comment est-ce qu'on rapproche sur les fondamentaux la production de la consommation? Et si vous regardez le plan directeur, par exemple, de New York à l'échéance 2030, vous verrez qu'il y a tout un plan pour reverdir tous les toits. Comment est-ce qu'on refait du maraîchage sur les toits? Comment est-ce qu'on réinvestit les espaces publics? Comment est-ce qu'on crée des fermes verticales? Et comment est-ce qu'on crée une réimbrication de la ceinture verte au sein même de la ville? Alors ça ne répondra peut-être jamais totalement aux besoins, mais on va pouvoir faire progresser de façon fondamentale. Cette réflexion-là, elle est en route. Elle fait du sens.
Alors, j'ai envie à présent, évidemment, qu'on s'attarde sur le titre, hein, sans plus attendre, parce que le temps presse, cela dit, par contre. Et ok, c'est à l'œuvre, mais est-ce que c'est à l'œuvre à la vitesse suffisante, Guy Berdel-Marmol, que pour ne pas crier, attention, casse-cou? On a un peu le sentiment que certes, et à vous lire, hein, on pourrait revenir, il y a plein de lieux que vous typés, où des expériences sont passionnantes, où avec un hectare on produit et on arrive à remplir des paniers qu'il faudrait 4 ou 10 fois autant par les techniques classiques à rencontrer, en polluant moins, en étant bien plus respectueux, y compris d'une vie familiale, hein, en permettant à ces producteurs d'avoir une vie familiale de qualité. Tout ça, à vous lire, on voit que ça existe et pourtant on n'a pas l'impression que ce soit érigé en modèle, que ce soit pris en considération, que les politiques s'en emparent comme discours, que ce soit pointé par les médias, bref, que ce soit le phare permanent de nos attentes.
Bah écoutez, c'est l'objet du livre. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, il y a une révolution silencieuse qui est en marge. Elle est le fait de citoyens et d'entrepreneurs. Mais tout le monde peut être entrepreneur d'un projet. Et donc, ce que je voulais au travers du livre, c'est qu'effectivement, comme ce soir, que les médias s'en emparent également et puis disent, mais un autre monde est en train d'émerger. Alors, vous savez, pour changer un modèle de société, tout le monde ne doit pas changer. Les études sociologiques montrent qu'on a besoin de ce qu'on appelle 3 à 5 % de maîtres, de gens qui ont une vision véritable de ce que pourrait être un nouveau modèle de société. Et au travers de ce qu'ils disent, mais surtout de ce qu'ils font, ils vont inspirer, on dit, entre 12 et 15 % de gens qu'on considère comme des chevaliers. C'est-à-dire qu'ils vont se cheviller le modèle et ils vont se mettre en route. Quand on atteint aux alentours de 17-18 %, ça fait bouger 60 % des eaux dormantes derrière. Ça fonctionne comme ça. Mais ça fonctionne dans les deux sens. Je vais prendre un exemple qui est un peu malheureux, mais le nazisme a fonctionné comme ça. Je veux dire, il n'y a pas 80 % des Allemands qui étaient soumis au nazisme. Les sociologues, les historiens savent que quand on a approché les 15, 16, 17 %, il y a eu un basculement. Moi, ce que je fais au travers du livre, je veux montrer aux gens que ça existe, je donne les références, les rendements, et inspirer des jeunes et des moins jeunes pour aller dans cette direction-là, puisque ce sont des solutions qui émergent souvent des citoyens. Alors, mon propos n'est pas critique vis-à-vis du politique. Je pense que le politique, aujourd'hui, ben, il a déjà beaucoup de travail à gérer la maison qui brûle. Et ce que je dis, c'est que la solution est en nous. Nous sommes la solution, là où nous sommes. dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos communautés, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est la politique des petits pas, mais c'est en train d'émerger.
Alors, peu de mémoire de ce qui pouvait ensemencer et pourrait réensemencer, venant du passé, une série de comportements. Une crainte, malgré tout, assez intrinsèque aussi des technologies. J'en prends pour exemple, vous allez nous parler, parce que vous nous en parlez, d'économie symbiotique. J'ai le souvenir d'avoir reçu, il y a à peu près un quart de siècle, Joël de Ronay, qui avait écrit un livre, L'homme symbiotique. Le simple fait qu'il puisse, il y a 20 ans, identifier l'idée que l'on allait implanter dans le corps humain des micropuces qui allaient pouvoir aider, que ce soit une pompe à insuline à corriger de la vue. Bref, ce qui aujourd'hui paraît d'une banalité affligeante faisait déchaîner tous les standards téléphoniques de la rédaction en disant « Faites taire cet Olibrius, il est fou ». Et donc, symbiotique, il va falloir encore accepter cette symbiose.
Oui, mais c'était le gros enjeu, je dirais, c'est la conclusion du livre. Fondamentalement, les solutions sont là, elles existent, elles fonctionnent, elles doivent encore s'étendre et connaître un rayonnement plus important, mais le gros enjeu n'est probablement pas là. Le gros enjeu est au niveau du saut de conscience, parce que je pense que atteindre ce niveau de conscience, savoir que ça fonctionne, que c'est là, que c'est à disposition, c'est une chose. Mais le plus gros enjeu, c'est probablement de combler le fossé entre notre développement technologique et ce que j'appelle notre développement spirituel. Et mon propos n'a rien de religieux. C'est la notion de sens et de valeur. Vous savez, Einstein lui-même disait « L'avancée des sciences n'est rien sans l'avancée de la conscience. » Oui, on a la capacité de tout résoudre. Oui, ça offre des opportunités fantastiques. Mais il faut que ce soit mis au service de la communauté au sens large et pas simplement au service d'un outil qu'on appelle le marché.
Donc des chambres de réflexions éthiques sont plus que jamais aussi indispensables.
Complètement. Plus d'éthique, de sagesse.
Ouais. On terminera, si vous le voulez bien, parce que on a beaucoup aussi donc fait ressentir et parler déjà la nécessité de l'apprentissage de nouveaux modèles. Et vous nous dites, il faut que l'on soit ludique dans l'apprentissage. Il faut que le jeu serve de matière à l'apprentissage.
Je pense qu'il faut s'adapter au cerveau des enfants d'aujourd'hui aussi. Et donc, ils sont baignés dans ce monde virtuel, entre l'Internet, la PlayStation, les jeux interactifs. Et ce qu'on a constaté, je ne sais pas, c'est une évolution des neurosciences, mais le cerveau s'adapte à ça et apprend très très vite par expérimentation et par récompense. Et vous savez, dans ces jeux vidéo, très souvent, même aussi futile soit-il, en fait, on se rend compte qu'il y a une addiction à la récompense qui est donnée. Et donc, quand on applique ça au système de l'enseignement, c'est extrêmement puissant. Et une des choses que je cite dans le livre, comme solution pratique, c'est plutôt une philosophie plus qu'une méthodologie qu'on voit émerger partout dans le monde, qui est une philosophie qui est appelée l'école inversée. Qui consiste à faire quoi ? Qui consiste à faire ce qu'on fait à la maison, en fait, à l'école. Donc, avoir accès à l'expérimentation à l'école avec un professeur qui joue le rôle de mentor, qui anime des jeux ou quoi que ce soit pour prendre la matière, et acquérir la matière de façon intellectuelle à la maison sous forme de tutoriel au travers de YouTube. Alors il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que les écoles qui y sont déjà voient un impact considérable, particulièrement sur les matières scientifiques, où le taux d'échec en mathématiques chute drastiquement quand on parvient à inverser ce système et à utiliser les jeux comme méthode d'enseignement.
Alors, n'hésitons pas à inverser, hein, non seulement nos paradigmes, mais nos capacités à voir. D'un dernier mot, nous sommes dans un monde où, on a la crainte on a le culte du risque zéro, on a la crainte du risque. Or, ça, par contre, il semble bien que toute volonté entrepreneuriale soit condamnée à rompre cette peur du risque. Entreprendre, c'est risquer.
Oui, par définition, c'est probablement la force du modèle, je veux dire, californien, hein, où quand vous êtes une entreprise, on vous dit deux choses. Ce n'est pas grave d'échouer. Essayez vite. Essayez beaucoup, trompez-vous vite. C'est le principe sans idée. Trois projets, un succès. Et puis celles qui sont plus avancées vous disent ici, il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Allez-y. Mais c'est plus que ça. C'est aussi dans la façon dont on forme les enfants. Les neurosciences savent que pour transformer de l'information en savoir, pour vraiment développer un modèle d'éducation performant, le processus d'apprentissage d'un enfant est basé sur quatre points. Le premier, c'est comment capter son attention, de l'importance d'avoir des professeurs qui sont des vrais mentors. Le deuxième, c'est la force de l'expérimentation. C'est ce dont on vient de discuter avec le jeu. Et le troisième, c'est la force du feedback. Mais le feedback nécessite de se tromper. Et donc ça, on doit l'intégrer.
Le droit à l'erreur.
Le droit à l'erreur débriefée. Ce n'est pas un échec, c'est une courbe d'expérience.
Alors, c'est sur cette part aussi tout à fait novatrice, hein, cela dit, parce que c'est quand même une révolution plus que du langage, c'est une révolution de l'approche à laquelle vous nous conviez, Guy Berdal-Marmol, qu'on va rester ce soir, non sans renvoyer pour le détail, et pour ce détail précisément aussi de toutes ces expériences en cours qui sont là et qui existent déjà, cela dit, pour certaines, depuis un bon bout de temps, hein, et que vous nous détaillez, que je renvoie à votre livre, sans plus attendre, une maison d'édition qu'on aime bien d'ailleurs, Kerr Édition, et qu'on salue au passage. Merci.
Merci.
Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine de 18h30 à 19h.